Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, l'occasion de la journée spéciale smartphone, tous accros, comment dompter les écrans. Nous explorons l'impact de ces technologies sur le couple et la famille. Comment le portable, les tablettes bouleversent en profondeur nos liens conjugaux et familiaux. Comment la profonde révolution anthropologique que nous vivons altère les relations érotico-sentimentales et parentales. Avec nos invités, nous vous délivrerons des pistes pour réduire au maximum les source de conflits et des conseils pour le meilleur usage possible. Et vous racontez-nous quel est l'impact des écrans dans votre vie de famille et de couple, quelles sont vos solutions pour réduire au maximum les tensions au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
8%, t'es contente, hein?
Je suis ravie, chérie.
7%, mais c'est criminel ce que tu fais, c'est pervers!
Attendez, là, parce que je t'entends la monter depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe là?
Mais c'est maman, elle m'a encore puni, mon portable, toujours mon portable, il t'a rien fait, mon portable, ok?
De quoi tu parles? Arrête de hurler, ton portable, tu l'as dans les mains, enfin!
Non, mais c'est parce que j'ai trouvé beaucoup mieux que de lui confisquer. Je suis assez fière d'ailleurs.
Hein? 7%, putain!
C'est quoi l'histoire là?
Eh ben, en fait, ce coup-ci, j'ai confisqué le chargeur. Et alors, tu vas voir, c'est énorme, c'est comme au cinéma. Je pense que t'arrives au meilleur moment, c'est la fin.
Non!
Extrait de la série Parents mode d'emploi. Bonjour Serge Tisseron.
Bonjour. Allez.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie et vous venez de publier une nouvelle édition chez RS de 3, 6, 9, 12 plus. Apprivoiser les écrans et grandir, un ouvrage indispensable. Bonjour Angélique Gozlan.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne et chercheur et vous publiez chez Hachette Pratique Petit guide décomplexant pour parents d'ados à l'ère numérique. Là, on vient d'entendre une scène de la vie ordinaire à l'ère du numérique, Serge Tisseron.
Hein? Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup d'auditeurs se sont reconnus. Chacun et chaque parent essaye de bricoler un moyen pour réduire la consommation des autres, mais il faut commencer par la sienne.
On y reviendra, Angélique Gozlan.
Oui, bah, tout à fait. C'est vrai que c'est très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que quand je suis en consultation avec les ados, c'est vraiment la punition suprême. Hein, et on leur vole leur vie. Enfin voilà, il y a quelque chose vraiment de vital pour eux. Donc là, on l'a bien entendu.
C'est une bonne punition, tiens, de confisquer le portable ou le chargeur, Angélique Gozlan.
Alors, la punition, j'aime pas trop. Je préfère le terme de sanction parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus doux dans la sanction parce qu'on va mettre en place des règles, on les connaît et puis à un moment donné, on va aussi proposer à l'ado d'être responsable et de réparer ce pourquoi il a été entre guillemets sanctionné. Donc du coup, punir, j'aime pas trop. Enlever le portable et enlever le chargeur, c'est quand même aller à l'extrême. On peut trouver des solutions intermédiaires.
Serge Tisseron.
Oui, tout à fait. Il faut bien comprendre que le portable, c'est pas un doudou, hein, comme on dit des fois. Le doudou, l'enfant lui prête des intentions. Mais le portable, ça permet aux ados de communiquer avec leurs potes. On a tous été ados et on sait combien les potes, c'est important.
Bonjour Cécilia Como.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychanalyste, sexologue, thérapeute de couple et vous aviez publié chez Flammarion « Le couple parfait n'existe pas » et on verra avec vous cet impact du smartphone dans le lit conjugal. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali.
Vous êtes philosophe normalienne, agrégée de philosophie, grande spécialiste de la philosophie du XVIIe siècle. Vous avez notamment publié un Que sais-je sur les 100 citations de la philosophie et vous jouerez au théâtre de la Contrescarpe, impro philo, le 25 avril prochain à 21h. Une question pour vous avant de plonger dans le vif du sujet, l'impact des écrans sur nos vies conjugales et familiales. J'aimerais commencer avec cette question fondamentale. Est-ce que la révolution anthropologique que nous sommes en train de vivre depuis, allez, 10 ans, une dizaine d'années, 15 ans, est-ce qu'elle est irréversible et est-ce qu'elle affecte durablement nos liens sociaux ?
Alors, qu'elle affecte durablement nos liens sociaux, je pense que c'est manifeste. Il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas, par exemple, aller au restaurant ou être à une terrasse de café et voir, alors ça c'est plutôt le domaine de Cécilia Comeau, mais voir un couple qui ne se parle pas parce que ils parlent à d'autres sur leur portable. Donc, oui. Enfin, je pense que là, on parle d'une évidence, c'est les conséquences qu'il faudra voir. Maintenant, est-ce que c'est irréversible? J'aurais tendance à vous dire oui, parce que je crois pas que la marche de l'histoire fasse des marches arrière. Mais j'ai un contre-exemple qui est frappant. On a cessé de fumer dans les lieux publics. Et ça paraît fou, parce que ça s'est fait à l'échelle d'une vie, enfin même de quelques années, et on nous aurait dit ça, enfin on aurait dit ça dans, à un enfant de ma génération qui a vécu avec plein d'adultes qui fumaient, on aurait dit non mais c'est pas possible, on va pas interdire une chose pareille. Donc je dirais oui c'est possible, à condition, je crois, qu'on accepte de se dire qu'il faut poser des règles. Il va falloir discipliner l'usage du smartphone.
Le regard de Serge Tisseron.
Oui, absolument, et j'ai même envie d'employer un mot civilisé. Il va falloir civiliser nos âges. Vous savez, il y a un domaine où nous sommes très civilisés, c'est la prise de nourriture. Mais pour se nourrir, il suffit d'avoir dans chaque famille un saladier rempli de pâtes ou de riz, et puis chacun plonge la main quand il a faim. Non, il y a dans toutes les cultures des rituels alimentaires. Ça apprend d'ailleurs aux enfants à attendre l'heure du repas, à s'éduquer. Il faut faire la même chose, il faut créer des rituels, il faut ritualiser nos consommations d'écran, nos consommations de smartphones, parce que sinon, nous vivons les écrans sauvages.
Angélique Gozlan.
Oui, alors un terme important, c'est éduquer, c'est-à-dire que déjà, c'est éduquer soi-même en tant qu'adulte, hein, parce que on observe que la pratique des adultes est exponentielle sur les smartphones, et puis ensuite remettre au cœur du numérique la question de l'éducation qui en fait est très commune et très connue par tous, c'est-à-dire guider, accompagner et puis sécuriser son enfant.
Cécilia Comeau.
Je me disais que là où ça va, l'écueil il va être sur la sphère privée. C'est-à-dire que justement dans les couples entre adultes, la réglementation, elle est impossible. Ça va être dépendant de la prise de conscience de la place que prend ou ne prend pas ce téléphone dans le couple.
Laurence Villers, cette emprise généralisée des écrans dans nos vies donne parfois l'impression que l'ailleurs numérique est plus important que l'autre en chair et en os.
Oui, je pense que le point le plus, à la fois le plus préoccupant et le plus manifeste, c'est précisément l'effacement du lien ou de la conception du lien. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on perd, c'est pas le lien, parce qu'on en a des tas en réalité. Enfin, et les réseaux sociaux qu'on appelle réseaux sociaux, donc apparemment ils nous socialiseraient ou nous sociabiliseraient, fonctionnent avec des termes du lien, les amis, les followers, etc. Les relations, c'est pas le lien qu'on perd, c'est la présence. Enfin, ça paraît bête parce que ça saute aux yeux, mais on n'est plus mis en présence. Et je pense que c'est pas l'ailleurs qui fascine ou qui est plus important que ce qu'on peut avoir en face de nous, à côté de nous ou les personnes qu'on peut croiser. C'est l'idée que je suis tout puissant dans mes choix. C'est l'idée qu'en fait j'ai une liberté sans dehors, parce que l'ailleurs c'est pas un dehors, c'est ce que je veux voir ou ce que je veux visiter comme site, ce que je veux entendre. Donc c'est cette idée d'une liberté absolument, sans limite, sans dehors, sans ailleurs même, sans présence, et qui fait que le choix est considéré comme aussi simple qu'un clic. Le choix c'est ce que je veux voir maintenant, et ce n'est pas ce avec quoi je me mets en présence.
Et Zoom Zoom Zen, tout à l'heure, reviendra sur cette technoférence, hein, expliquer Serge Tisseron ce qu'est la technoférence, c'est-à-dire ces liens qui sont altérés à cause de la technologie.
Voilà, c'est un mot qui paraît un peu barbare, en fait, c'est très simple, c'est l'interférence d'une technologie dans la relation. Et effectivement, Laurence vient de l'évoquer entre adultes, mais on évoquera aussi, bien sûr, les relations entre parents et très jeunes enfants, où là, ça peut avoir des effets très ravageurs.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi nos écrans ont profondément et radicalement bouleversé nos modes de vie, nos vies de famille, nos vies de couple? C'est peut-être parce que le portable, la tablette, nous dote de super pouvoirs. Je vous cite cette belle définition du smartphone de Philippe Laloux dans le journal belge Le Soir en octobre dernier. Je le cite. Le smartphone est résolument devenu la boussole de nos existences, notre connexion avec un univers virtuel infini dont les usages ont fini par remodeler le réel. Il suffit suffit d'imaginer le vertige de son absence, voire la perspective de son absence, pour réaliser à quel point il est ancré dans nos vies. Il a changé notre manière de communiquer, de s'informer, de voyager, d'apprendre, de travailler, de se divertir, de jouer, de penser, de s'exprimer, de voter, de se soigner, de faire son jogging, ses courses, l'amour ou la guerre. Serge Tisseron, sans tous ses pouvoirs, sans tous ces super pouvoirs, nous redevenons de simples mortels.
S'il suffisait d'avoir un smartphone pour échapper à l'idée de la mort, ça serait trop facile.
Ce serait pas mal.
Mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des moments où on est avec quelqu'un, puis on bascule sur son smartphone parce qu'on pense que c'est plus intéressant. Mais il y a aussi des moments où on peut basculer sur son smartphone parce qu'on pense que c'est moins angoissant. Parce que la communication en face à face n'est pas quelque chose de facile à gérer. Vous savez, les psys ont beaucoup parlé des réactions d'attaque, fuite. Quand on fixe quelqu'un dans les yeux, il y a un moment de trouble. C'est pour ça qu'on finit par baisser les yeux, parce que la proximité est tout d'un coup trop intense. Le smartphone, vous savez, c'est presque un bouclier, un pare-excitation. Tout d'un coup, on peut prétexter que j'ai plus de batterie, ça s'arrête. Ou tiens, c'est brouillé, je coupe. Et du coup, on peut à tout moment mettre la relation en route ou l'arrêter. Alors, on n'échappe pas à la mort, mais on échappe à l'angoisse d'une relation trop proche.
Cécilia Comeau.
Oui, et puis je pensais, le silence aussi peut être anxiogène quand on n'a pas vraiment quelque chose à se dire, ou qu'on considère que là, si on entamait une conversation, ça serait pas une bonne idée, ça pourrait être dégénéré. Et puis je pensais aussi au niveau de la relativité du temps, même si je me prends pas pour Einstein, la rencontre est lente. Connaître quelqu'un, ça prend du temps. Alors que sur nos smartphones, on est devenu omnipotent et omniscient à la vitesse de l'éclair. Et je pense que ça déforme complètement le temps qu'on accorde à l'autre.
Laurence Deviner.
Oui, alors je pense que ces outils technologiques sont à la fois des outils et des super-pouvoirs. C'est-à-dire des outils, parce que ce sont des écrans, et je vais dans le sens de ce qu'a dit Serge Tisseron, je pense que c'est pas seulement un bouclier pour aborder la rencontre, et donc c'est plus facile parce que la rencontre n'a pas lieu, finalement j'arrête quand je veux, je la commence quand je veux, mais c'est aborder le réel. Bah, c'est terrible, il faut toute une vie pour supporter le réel. Faut toute une vie, et parfois on n'y arrive même pas, pour affronter le réel. Pas forcément le réel dramatique, mais le fait que le réel est le réel. Y a rien à changer. Le réel, c'est pire que 1 plus 1 égale 2. Vous n'y changerez rien. Et je pense qu'effectivement, ça a un rôle d'écran. Ça amortit, c'est une bouée. Et ça peut aller jusqu'à, finalement, ne jamais être dans le réel et ne jamais l'affronter. Et je crois qu'effectivement, ça nous donne aussi des super pouvoirs. Nous sommes des dieux. Quand nous avons ce petit appareil, c'est-à-dire qu'on est dans l'ubiquité, on est partout, on est partout à la fois. Le temps et l'espace n'existent pas en réalité, ça veut plus rien dire. Et on a des super pouvoirs parce que, je crois que c'est un autre point, rien ne compte vraiment. C'est-à-dire on ne donne rien, on ne perd rien. C'est un bilan comptable, mais parfaitement à l'équilibre. On a rien perdu, on n'a rien engagé.
Et à l'adolescence, on jouit de ces super pouvoirs, Angélique Gozlan.
Ah ben complètement, parce qu'à l'adolescence, on vient aussi être dans un remaniement fondamental du corps et de la vie psychique. C'est extrêmement angoissant. Donc si on peut se transposer dans un espace où on peut être idéalisé, où on est sans contrainte du corps charnel qui change et qui est horrible et dans lequel on se retrouve pas, et qu'en plus, je peux tomber amoureux à toutes les minutes de n'importe qui ou de ce que je choisis, c'est quand même assez formidable.
Serge Tisseron.
Oui, je voulais dire qu'on est dans l'illusion des super-pouvoirs, on a aussi des super-désillusions, parce qu'il y a des gens qui ne nous répondent pas, on compte qu'on a moins de followers que d'autres, alors qu'on pense qu'on devrait en avoir plus, qu'on se heurte à des réponses très stéréotypées de la part de gens dont on attendait plus. Donc, si vous voulez, ça ne nous éloigne pas, hélas, de nos smartphones. Ça peut même nous pousser à y être encore plus. Mais je crois qu'il faut nuancer cette idée que on se sentirait tout puissant avec son smartphone. C'est comme dans les jeux vidéo. Non, ceux qui... on le souhaite, mais ça n'est pas forcément au rendez-vous. Beaucoup de gens ont toujours tendance à y retourner parce qu'ils sont dans cette illusion qu'ils vont finalement y trouver une satisfaction qu'ils n'y trouvent jamais. Et puis l'attachement par la frustration.
Et puis Serge Tisseron, n'oublions pas que les écrans nourrissent en permanence le circuit du plaisir dans notre notre cerveau, comme le dit la philosophe et chercheure en sciences cognitives Elena Pasquinelli. Oui. Tous les objets numériques agissent comme des pâtisseries pour notre cerveau. Ce sont des gourmandises, des super stimuli pour notre cerveau. Et c'est très important de comprendre ça pour mieux utiliser des écrans. Vous écrivez, Serge Tisseron, dans votre livre 3, 6, 9, 12+, je vous cite, « Quel parent installerait un saladier de crème au chocolat sur la table basse de son salon avec une cuillère à côté pour que son bébé puisse se servir aussi souvent qu'il en a envie ? C'est exactement la même chose que les parents font avec une télévision allumée, avec les tablettes et les smartphones. »
Eh oui. Oui, et c'est vrai que cette analogie avec les produits trop gras, trop salés, trop sucrés est utile parce que, bien sûr, les écrans ne sont pas trop gras, trop salés, trop sucrés. Il faut comprendre qu'ils sont extraordinairement colorés, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de mimiques très fortes, et tout ça nous accroche et fait que nous attendons un dénouement qui, souvent, d'ailleurs, n'arrive jamais. C'est fait pour que nous restions toujours plus longtemps devant. Mais l'analogie avec la nourriture, je trouve, et les nourritures toxiques, est un bon moyen de sensibiliser les parents au danger des écrans.
Notre cerveau est accro au plaisir.
Au mouvement, aux couleurs, à l'inattendu.
Et face à ces pâtisseries numériques, Angélique Gozlan, que notre cerveau adore, il paraît impossible de réduire notre consommation d'écran.
Alors,
quel que soit son âge.
Impossible n'est pas
quasi
possible.
Quasi impossible.
Voilà. Je pense que justement la question de rendre possible. Oh là, je suis déçue.
Prenez un petit verre d'eau. Oui. Serge Tisseron va répondre. Est-ce que c'est impossible de réduire cette consommation d'écran chez les enfants, chez les ados, chez les parents, tellement notre cerveau est accro à ces pâtisseries?
Alors, ce dont je suis convaincu, c'est que personne ne peut le faire tout seul. Oui. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des règles collectives dans l'entreprise, quand on est entre copains au restaurant, et puis évidemment dans les familles. S'appuyer les uns sur les autres.
Angélique Gozlan.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est possible. Mmh. Il s'agit juste de remettre un petit peu de bon sens dans nos usages du numérique et de la relation. Et ça peut être qu'on y reviendra, mais c'est quand même le propre de l'humain que d'être vivant dans la relation à l'autre. L'écran coupe la relation. Donc à un moment donné, c'est comment on arrive à reconstruire quelque chose autour de cet écran et qui à la fois est positif mais aussi a des enjeux négatifs, et il faut en avoir conscience, et c'est comme ça que finalement on va réussir à rendre possible le monde des possibles qu'est le virtuel.
Cécilia Como.
Oui, et puis surtout, tout est fait pour donner à notre cerveau ce qu'il adore, c'est-à-dire la nouveauté. Et nous nourrir en dopamine et nous rendre complètement accro. On voit bien que dans tous les sites ou toutes les applis, on vous fait revenir en permanence en proposant de la nouveauté. Et sur certains sites, ce qui me fascine de vente, on vous fait gagner en permanence quelque chose. Vous savez pas encore quoi, mais cette montée comme ça de dopamine et d'adrénaline va énormément participer à l'attachement par la frustration. J'aime beaucoup, et ça c'est terrible parce que ça c'est pensé par ceux qui créent les applications.
La dopamine, c'est l'une des hormones qui contribue au plaisir. Laurence de Villers.
Oui, et c'est une vie où il se passe, enfin une vie virtuelle, mais c'est une vie où il se passe toujours quelque chose. Et je pense qu'effectivement, c'est cette ambiguïté que c'est mieux ce que me propose avoir mon smartphone, mais c'est vrai, il n'y a pas de temps mort, alors que dans la vie, il y en a. Enfin, dans tous les sens du terme, il y a des temps morts. Il n'y a pas de temps mort, il y a de la nouveauté permanente, c'est-à-dire il se passe toujours quelque chose. Alors, ça ressemble à du trop gras, trop sucré, trop salé, mais ça ressemble aussi à des séries, à des mini-séries. C'est formaté, c'est scénarisé, et ma vie de fait devient plus intéressante. Alors, évidemment, le drame, c'est que c'est pas la vie que je mène vraiment. C'est virtuel. Mais ma vie semble scénarisée. Vous savez, c'est comme, alors moi je le fais pas, mais ça me fascine toujours, les gens qui ont en permanence de la musique. Par exemple, dans le bus,
oreilles.
J'aime bien parler à mon voisin ou ma voisine, mais je me rends compte qu'il me répond pas. Non pas parce qu'il me snob ou qu'il me prend pour quelqu'un de dangereux, mais parce qu'il a des écouteurs dans les oreilles. Et c'est l'idée que ma vie vaut la peine s'il y a une bande-son. Eh bien, le smartphone joue ce rôle de bande-son. Tout d'un coup, tout prend de l'importance.
Et est-ce qu'on peut dire aussi, à ce stade de l'émission, que l'usage excessif des smartphones, des tablettes, ça sert aussi à ne pas communiquer dans la famille ou au sein du couple, Serge Tisseron?
Oui, il y a cet aspect-là. Mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Laurence de Villers. Ça crée l'impression d'être toujours occupé, même si on ne fait rien. Et c'est vrai que c'est une manière de lutter contre l'angoisse du vide, mais c'est aussi une manière de perdre une sensibilité à ses sensations, à ses émotions, parce que les émotions, il faut les penser, sinon on passe à côté. Donc du coup, vous voyez, il y a toute une substitution qui se fait, et ces mondes numériques auxquels nous donnent accès nos smartphones, nos écrans, prennent la place de beaucoup d'autres choses que nous pourrions vivre dans la vie quotidienne et que nous ne vivons plus.
Angélique Gozlan.
Oui, alors ça, c'est très visible dans la clinique avec des adolescents qui vont mal, c'est-à-dire que le smartphone va prendre une place de refuge et surtout d'antidépresseur, d'empêcher en fait la pensée et les angoisses de tourner en rond, de ruminer, etc. Donc on va se blottir dans l'image jusqu'à ne plus rien penser. Et d'ailleurs, quand ils regardent TikTok, ce flux-là, très dense de vidéos, ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils regardent. C'est quand même un signe que finalement, même si on scénarise quelque chose, il n'y a rien qui reste. C'est juste qu'on comble un vide, un mal-être existentiel.
Cécilia Como, le smartphone, le portable, en famille, dans la vie de couple, c'est aussi un moyen de ne pas communiquer, d'éviter la communication.
Voilà, c'est plutôt un moyen de s'échapper et de ne pas se confronter à ce qu'on sent et pressent nécessiterait effectivement une confrontation, une discussion, etc. Effectivement, je pense que c'est très compliqué, encore une fois, le vide et le silence. Ça fait peur dans les couples. Si on n'a rien à se dire, c'est peut-être que c'est le début de la fin. Et finalement, on ne se retrouve pas confronté à n'avoir rien à se dire parce qu'on est occupé par quelque chose. Je vois quand même que c'est effectivement, et ce ne sont pas des ados, mais ça fonctionne de la même façon, ne pas penser. Beaucoup de gens prennent leur téléphone le soir et le disent pour s'octroyer un moment de détente. C'est vraiment ce moment où je vais souffler et on ne sait plus vraiment le faire en dehors du smartphone. Moi, je suis assez frappée, bon, dans le métro ou ailleurs, si vous attendez quelqu'un et que cette personne est en retard, avant, je sais pas, on regarde dans le vide, on attend, on regarde les autres, on observe. Aujourd'hui, la posture qui nous permet de nous sentir, de pouvoir attendre de manière sereine, c'est d'avoir les yeux sur le portable. Ça nous donne, c'est un peu comme la cigarette quand on était jeune, ça donne une posture. Et du coup, effectivement, ça devient un objet qui semble être indispensable.
Serge Tisseron.
Oui, tout ça est vrai, mais il faut pas oublier quand même que le portable, c'est aussi la possibilité de joindre et d'être joint à tout moment et de se rattacher, encore une fois, à sa communauté. Et c'est ça qui est complètement nouveau avec cet outil. C'est la possibilité d'avoir toujours l'impression de pouvoir communiquer avec des gens qui sont intéressés par les mêmes choses que moi. Et les sociologues décrivent bien cette grande révolution de la sociabilité, qui est qu'avant les outils numériques, la sociabilité se faisait par proximité physique. Donc les gens étaient les plus proches, c'est ceux qui étaient avec nous sous le même toit, éventuellement nos voisins, quelques commerçants du quartier, alors qu'avec les outils numériques, les gens dont nous sommes le plus proches, c'est ceux qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous. Ce qui a des conséquences très pratiques en famille, c'est que si les parents n'arrivent pas à trouver des centres d'intérêt qu'ils peuvent partager avec leurs enfants sont sur leur smartphone à partager leur centre d'intérêt avec leurs copains, le papa avec ses copains, la maman avec ses copines ou ses copains, et puis les personnes âgées avec des copines et des copains, personnes âgées. Et c'est comme ça qu'on voit des fois dans des lieux publics, des bancs sur lesquels il y a les parents, deux enfants, chacun est sur son smartphone. Faut pas croire forcément qu'ils se fuient, mais ils n'arrivent pas à définir un centre d'intérêt commun. D'où l'importance de partager des spectacles, des films, des promenades et d'en parler.
C'est très très juste. Laurence de Villers.
Oui, c'est ensemble isolé en réalité. Oui. Donc ce qu'on perd, c'est... Alors ça va vous sembler peut-être que j'exagère, mais je pense que ça crée un monde de fantômes. Et ça transforme le monde en fantôme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on a le sentiment qu'on est quelqu'un à la condition d'être occupé. donc occupé à regarder, et peu importe ce qu'on regarde, parce que c'est sans objet, hein, c'est pas ça l'important. Et on fait du monde un fantôme, parce que on l'habite plus réellement. C'est ça qui me frappe, c'est que ça crée, oui, une sorte de communauté de fantômes, parce que il me semble qu'être soi, c'est inscrire sa présence dans le monde. Enfin, moi, je voudrais pas qu'on me prive de la possibilité de signer et contre-signer. Oui, je suis là, mais je suis là parce que je regarde, parce que je ne fais rien. Et je pense qu'on confond faire quelque chose et être soi.
Dans un instant, vous verrez que le problème n'est pas forcément le temps d'écran en lui-même. Nous verrons également comment les écrans entravent la vie intime au sein du couple, avec un impact évident sur la sexualité. Ce sera juste après avoir écouté M, qui de nous deux, un titre sorti en 2003, 10h30 sur France Inter. Interpréter qui de nous deux ?
France Inter.
Oh non mais Denis, mais c'est pas possible, tu peux plus rien faire sans ton portable, hein ?
Grand bien vous fasse.
Moi j'en peux plus, là j'ai envie de nature, de forêt, de ruisseaux, d'oiseaux, je veux plus des ondes, des wifi, des ordi, des réseaux, des portables, Fog Bouic, Fog Orange, Fog SFR, Fog.
Journée spéciale, smartphone, tous accro.
Couple, famille, comment le smartphone, les tablettes nous perturbent, c'est notre thème ce matin. Écoutons ce reportage de Charles Thierry cette semaine dans les rues de Paris.
dirais que c'est un progrès utile à l'occasion, voilà. Bah, ça rapproche quand on est éloigné.
Ça dépend avec qui. Si avec des personnes qui habitent loin, ça rapproche. Vie de couple ou famille, si on habite vraiment ensemble, pour moi, ça tue.
Ça rapproche pour des personnes qui sont très éloignées géographiquement, mais ça éloigne pour les personnes qui sont proches.
Mon copain, il joue énormément à Brawl Stars, ce qui nous saoule. Et c'est vrai que je trouve qu'il est assez souvent sur son téléphone, ce qui du coup m'influence aussi sur mon téléphone.
Ça enlève certains moments qui pourraient être dédiés à de la communication directe, à de la conversation. Ça instaure du silence.
Le silence et le fait que quand on est concentré sur son téléphone, on se rend moins compte de ce qui se passe autour de soi.
Dans ma vie de couple, non, mais dans ma vie de famille, oui, où quand on est avec les enfants et où on passe du temps avec eux, où eux, ils jouent avec leur joie et où on est à côté, c'est vrai que quand on est sur nos téléphones, on a plus l'impression d'être des zombies à côté que des parents qui participent de loin à leur activité.
Et notamment, par exemple, pendant les repas et les dîners, moi, je sais qu'avant, moi et ma sœur, on était beaucoup sur nos téléphones pendant les dîners, du coup, nos parents l'ont complètement interdit.
On doit un peu se contrôler pour pas le sortir à table, etc., notamment devant les enfants. Donc ça peut effectivement perturber les interactions dans la famille.
Je pense que tant que ça prend pas trop de place et qu'on n'est pas addict au point de passer plus de temps sur son portable qu'avec la personne, c'est pas un problème.
C'est plutôt du plus, quoi, à condition de savoir s'en servir. Abusus non tolitusum, comme disaient les anciens. Voilà, autre question ?
Propos recueilli par Charles Thierry. Votre réaction, Serge Tisseron. Je rappelle que vous êtes psychiatre.
J'ai beaucoup aimé cette phrase, ça nous rapproche des gens qui sont loin, mais ça nous éloigne des gens qui sont proches. Et puis il y a aussi cette évocation, on avait évoqué tout à l'heure, cette dame qui dit « mais quand je suis à côté de mes enfants, ils jouent sur mon smartphone ». C'est la fameuse technoférence. Hein. Alors, je me souviens, il y a quelques années, on avait fait une enquête sur les 8-12 ans qui n'avaient pas encore de smartphone. Qu'est-ce qui vous ennuie le plus dans la vie ? Réponse majoritaire, que mes parents soient toujours sur leur smartphone. Et on leur disait « mais est-ce que vous dites à vos parents qu'ils sont trop sur leur smartphone ?» Et les jeunes répondaient non, parce qu'on espère bien quand on aura un, ils nous laisseront faire pareil.
Deux auditeurs qui nous laissent ces messages intéressants. Rick Bourg qui nous écrit « Arrêtez de mettre en cause le portable, les écrans, qui ne sont que des objets. Mettez en cause le vrai coupable, à savoir le contenu, en l'occurrence les applications addictogènes, les réseaux sociaux qui ne sont que des réseaux commerciaux. Bref, vous montrez la lune, mais on ne voit que votre doigt. » Et Anne qui nous dit « Il y a une invasion d'écrans dans la ville, vitrines, magasins, tableaux de bord des voitures, etc. Ça crée un décalage entre ce qu'on dit aux enfants de limiter les écrans, alors que l'on en voit partout. » Angélique Gozlan, que vous inspirent ces deux réflexions ?
Eh bien, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que, en effet, il y a la question du contenu qui va générer une attractivité de plus en plus grande. Et puis aussi, hein, qui dit contenu dit communauté, donc lien d'interdépendance les uns avec les autres, etc. Et puis, en effet, on est dans une société où même à la pharmacie, à la boulangerie, il y a des écrans. Et quand on dit, alors c'est le 3-6-9-12 de Monsieur Tisseron, mais quand on dit pas d'écran avant 3 ans, ça devient absolument difficile et presque impossible aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que voilà, il faut un peu moduler ce pas avant 3 ans avec la société d'aujourd'hui qui amène beaucoup d'écrans.
Serge Tisseron.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, 3-6-9-12 a évolué, c'est ça qu'on appelle 3-6-9-12 plus. Et c'est vrai qu'avant 3 ans, on peut regarder des petits programmes très courts. Moi, je dis toujours, regardez avec les enfants. Et puis après 3 ans, ben, beaucoup de parents sont amenés à laisser leur enfant devant un écran, dans la télé, parce qu'ils ont besoin de s'occuper d'eux, hein, surtout beaucoup de parents quand même, famille monoparentale. Je dis, mais alors il faut rattraper. Mettez votre enfant 1 heure devant la télé, faites 1 heure d'activité avec lui. La télé, c'est pas toxique, mais ça empêche l'enfant de communiquer en situation vitale, quoi, existentielle, avec un adulte. Donc voilà, il faut rattraper 1 heure d'écran, 1 heure d'activité partagée.
Serge Tisseron, de quelle façon l'utilisation intense des écrans altère, perturbe la relation familiale, la relation parent-enfant ? Comment se caractérise cette perturbation relationnelle, selon les âges ?
Alors, y a un gros problème d'incompréhension, parce que souvent les parents ne savent pas ce que font leurs enfants avec leur smartphone, ils imaginent toujours le pire. Et c'est vrai que les enfants aussi n'ont pas très envie de communiquer sur ce qu'ils font avec leur smartphone, c'est leur intimité, ça se passe intime. Et donc, ce qu'il faut arriver, c'est recréer du lien autour de ce que les gens font avec leurs outils numériques. C'est compliqué avec le smartphone, c'est plus facile quand on regarde un film ensemble, une série ensemble. Il y a beaucoup de séries qu'on peut voir avec des ados, voire même des pré-ados, on en discute. Et petit petit à petit, il y a un climat qui fait que les enfants et les adultes parlent plus ensemble. Alors, vous savez, il a été montré clairement que des enfants qui parlent avec leurs parents, ben, notamment de ce qu'ils voient et font avec les écrans, c'est des enfants qui ont une meilleure socialisation, un meilleur développement du langage. Donc c'est ça qu'on encourage beaucoup aujourd'hui. Et puis des activités de création collective. On évoquait ces ados qui sont côte à côte sur un banc, chacun sur leur smartphone. Mais figurez-vous que parfois, il y en a qui ont la même activité. Ils jouent en réseau, par exemple. Ils sont côte à côte, mais ils se retrouvent dans les écrans. Et quand on sait, quand on fait attention à ce qu'ils font, on s'aperçoit qu'il faut autant prendre en compte les contenus que prendre en compte le temps passé.
Le temps passé, c'est pas si important que ça pour vous,
Serge Tisseron. S'il n'y a rien à renoncer au temps passé, il faut limiter le temps, absolument. Hein. Jamais de smartphone pendant les repas partagés, jamais de smartphone la nuit dans la chambre. C'est une trop grosse tentation pour les ados de ne pas dormir. On sait que quand même l'ennemi numéro un, enfin la victime numéro un des écrans, c'est le sommeil. Mmh. Ça, il faut, tous les experts sont d'accord, le sommeil. Donc jamais de smartphone la nuit. Donc il faut limiter les activités partagées, pas de smartphone, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Mais en revanche, aussi, veiller au programme et puis surtout discuter de ce que les enfants regardent, parce qu'ils regardent beaucoup de choses dont on ignore tout et qui pourraient même parfois être intéressantes pour nous-mêmes en tant qu'adultes.
Angélique Gozlan.
Oui, alors c'est essentiel la question du partage, surtout que en fait, on peut même en dehors d'un film mettre en place des activités autour de notre smartphone, parce que quand on est adulte, on suit des influenceurs, on va suivre des vidéos, des shortcoms sur YouTube, on va suivre des infos, donc il y a plein de choses qu'on fait finalement pareil que nos enfants ou que nos jeunes. Donc l'idée, c'est finalement, pourquoi pas un dimanche se dire, bah tiens, on va faire une heure de tuto ensemble et puis on va réaliser ça. Ou est-ce qu'on ferait pas la chasse aux fake news, parce que là, qu'est-ce que t'as entendu cette semaine, on pourrait commencer à checker, à faire le détective. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont super sympas à faire.
Si je vous comprends bien, c'est de créer du lien social à partir du smartphone, de la tablette.
Le smartphone maintenant est ici. Il fait partie de notre quotidien. Donc, utilisons-le comme une activité numérique à part entière, comme quand on irait faire du judo ou de la danse ou je ne sais quoi.
Vous êtes d'accord, Serge Tisseron ?
Complètement. Et même TikTok, dont beaucoup de gens disent beaucoup de mal sans savoir ce que c'est. C'est vrai qu'il y a ce scrolling de vidéos qui enferme les ados dans une espèce de morosité tournée en rond. Mais il y a aussi des outils de création sur TikTok, comme CapCut, qui permettent de créer des petits films, voire les créer ensemble.
Laurence Villers, philosophe.
Je pense qu'il faudrait compenser ce trop-plein d'images par la possibilité de raconter des histoires. Ce qui me frappe, c'est que quand on est devant son smartphone, et je crois que le contenu n'est pas si important que ça, parce que je ne veux pas dire que tout se vaut, mais bon, c'est surtout l'usage, je pense, qui va dans l'abus. Mais on ne parle pas. C'est curieux parce qu'on dit c'est une absence de silence, oui, parce qu'on est parasité, enfin notre esprit est encombré de tout ce qu'on voit, mais on ne parle pas. Et je pense que ça efface notre capacité à raconter des histoires. Et je me dis que il faudrait compenser le fait d'être devant l'écran par le fait de parler et de raconter des histoires. Moi, avec des enfants, hein, je suis frappée de voir à quel point ce trop-plein d'images a parasité, voire effacé l'imagination. Mais l'imagination, c'est précisément raconter des histoires. Et il me semble que ma jeunesse, comme on avait moins à portée de main des histoires toutes faites, c'est-à-dire des images, qu'est-ce que c'est qu'une image ? C'est une histoire toute faite. Ben, on inventait plein de choses. On racontait plus d'histoires, me semble-t-il.
Et nous avons eu la télévision aussi, qui était omniprésente
dans notre
génération.
Elle était très réglée. Enfin, je ne sais pas vous, Ali, mais...
Oui, mais la télévision permettait aussi, au sein des familles, de la conversation. On regarde ensemble
un
programme, on en rit, on commente, ça crée de la conversation. Enfin, en tout cas, à mon époque, quand on regardait la télévision tous ensemble.
À mon époque, moi, je me souviens que le mercredi matin, je regardais le Club Dorothée toute seule. Hein.
Ah, toute seule. Bon, mais oui, ça arrivait, bien évidemment. Il y avait un côté nounou de la télévision, bien évidemment. Il y avait des moments aussi de communion en famille où on regardait des programmes et où on riait, on commentait.
Parce qu'on parlait.
Ça créait de la conversation.
Voilà. Oui, mais c'est encore possible. Pendant le Covid, beaucoup de familles ont redécouvert les vertus des vieux Fernandel, des vieux de Funès regardés en famille. Mais vous savez, en 1998, j'ai écrit mon premier bouquin sur les images sur la télé. Et j'avais un slogan, c'était « La télé, c'est pas ce qu'on regarde, c'est ce dont on parle ».
Bien vu. Cécile Acomo, psychanalyste.
La télé, ça se partage. On n'a pas une télé individuelle qu'on transporte avec soi. C'est rare de partager son smartphone. Vous remarquerez, c'est quand vrai. On le prête à quelqu'un, d'abord on regarde ce qu'il fait. Hein, est-ce qu'il va pas aller regarder ailleurs? Et puis on attend qu'il nous le rende. Des fois, bon, allez, rends-le-moi. Donc c'est vraiment quelque chose d'individuel. Mais je pense que la difficulté et l'ambivalence, c'est qu'un même outil apporte le meilleur. On peut s'instruire, on peut vraiment faire des choses qui nous font du bien et apportent le pire. On peut souffrir, on peut s'abrutir et souffrir, parce que quand on regarde sur, il y a eu une étude pour les gens qui regardent beaucoup Instagram, qui sont beaucoup dessus. Les gens déprimés sont plus nombreux chez ceux qui regardent Instagram. La vie des autres me ramène à ma pauvre vie. Donc un même outil, alors que Instagram par ailleurs c'est génial pour des recettes de cuisine, de la déco, enfin voilà, de l'inspiration. Et donc c'est ça que je trouve très ambivalent et difficile pour nous à appréhender et à maîtriser. C'est que le même outil va m'amener beaucoup de bonheur ou beaucoup de souffrance.
Parce qu'il y a quand même une place incroyable au vide, et on en fait l'expérience soi-même et puis on l'entend. Ah, j'ai passé 2 heures à chercher, voilà. Et c'est une expérience du vide. Enfin, on se souvient pas de ce qu'on a vu, on l'a enchaîné, parce qu'il y a, je dis vide, mais je devrais dire manque de profondeur. Enfin, il se passe à la fois toujours quelque chose et rien.
Non, ça dépend. Moi, j'ai appris énormément de choses en cuisine.
Oui, moi aussi.
Non, je cuisine pas. Mais pour être honnête, je pense que je n'aurais pas fait cette démarche avec des livres de cuisine.
Alors, je peux vous donner un autre exemple. La Commission européenne reconnaît que l'utilisation d'Internet par les adolescents est une très bonne éducation, très bonne forme d'éducation par les pères dans le domaine de la santé, notamment de la santé sexuelle. C'est-à-dire que beaucoup de bons comportements dans le domaine de la sexualité sont appris par des adolescents en consultant des youtubeurs, des influenceurs, des camarades. Voilà. Donc il y a cet aspect aussi très positif.
Et nous accueillons Laura de Marseille. Bonjour Laura.
Bonjour.
Alors, vous avez 2 ados à la maison. Comment ça se passe c'est avec ça. Les écrans?
Eh bien écoutez, c'est l'enfer. En fait, on a essayé de tenir et de dire pas la 6e uniquement à partir de la 4e. Bien sûr, au bout du 2e trimestre de la 6e, on a cédé. Mm-hmm. On a de la chance qu'on a des enfants qui font pas forcément, enfin, ou pas de la chance d'ailleurs, qui font pas forcément attention à leurs affaires. Donc, le premier portable de mon fils, il a tenu 2 mois. On a réitéré 1 fois, 2 fois, 3 fois, on a arrêté, ce qui fait que c'était très bien. De 5e à 4e, il n'y avait plus de portable. On lui a redonné un, et là, en 3e, on a essayé de mettre des contrôles, de tout bloquer. Il a réussi systématiquement à tout contourner, et en fait, on s'est aperçu que tout compte fait, il n'était pas tant sur tout ce qui nous faisait un peu peur, justement, les TikTok et compagnie. Par contre, son portable, c'était devenu sa tablette de jeu, sa télé, etc. Donc, ce qui est en plus un peu chiant, c'est-à-dire que maintenant, ils mettent un système qui est nul de contrôle d'écran. Ça veut dire que nous, on voudrait que ça soit limité 1h30 pour l'ensemble des tablettes pour jouer et pour finir, l'ensemble des applications, pardon. Et en fait, c'est horrible, il faut passer un temps pour programmer chaque application. Ça veut dire que si on veut les laisser, parce qu'ils écoutent beaucoup de podcasts, et donc ça nous embête qu'ils n'écoutent plus ça, parce qu'effectivement, ils écoutent de tout. Mais du coup, il faut laisser plus ou moins tout ouvert. Donc, en fait, on passe notre temps à faire uniquement ça, à contrôler, et ça prend autant de place que les devoirs. C'est-à-dire qu'avant, on s'engueulait que pour les devoirs, maintenant, c'est uniquement les devoirs et portables. Donc, c'est sans fin.
Angélique Gozlan, Laura aurait pu témoigner dans votre petit guide décomplexant pour parents d'ados à l'ère du numérique. Quels sont vos conseils pour une éducation numérique et un apaisement des relations à la maison? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laura, qui à mon sens est le porte-voix de nombreux parents ce matin?
Alors, c'est intéressant ce que Laura dit, parce que finalement, elle a essayé de contrôler avec des outils de contrôle qu'on trouve comme Google Family, etc., sur le smartphone. Et puis, on voit bien que c'est pas opérant, parce que les ados, ils sont hyper malins. Ils arrivent à contourner tout ça. Donc, bon, on peut essayer, hein, ça va nous rassurer nous un petit peu en tant que parents, mais finalement, l'enjeu c'est véritablement de définir au sein même de votre propre famille, et qui n'est pas celle des voisins, ce qui vous conviendra dans l'usage de ces smartphones, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, etc. Et donc de concevoir, de co-construire comme ça un espèce de bienséance, hein, sur les usages des écrans au sein de la famille, et ça sera différent de la famille, du voisin d'à côté ou d'en bas, etc. Parce que c'est propre à chacun, en fonction de notre histoire. On peut avoir un papa hyper geek, il va pas demander à son gamin d'arrêter l'écran à 22h alors que lui continue à jouer à Game of Thrones ou enfin à World of Warcraft, pardon. C'est complètement incohérent. Donc vraiment, remettre au centre du bon sens, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est ma limite en tant que parent? Si c'est de manger ensemble le dîner et qu'on se parle, alors ça c'est incontournable et ça sera pas dérogeable. Et ta partie de League of Legends, tu la feras avant. Et je comprends que tu aies besoin de la faire, mais tu l'as fait avant, et à 19h30 on mange tous ensemble. Et c'est véritablement cadrer sans punir.
Cadrer sans punir.
Voilà, cadrer sans punir et co-construire ensemble.
Serge Tisseron.
Oui, c'est la question des valeurs, hein. Vous prononcez pas le mot Angélique, mais c'est ça, c'est la question des valeurs que les parents veulent défendre aujourd'hui. La valeur principale, ça doit pas être le temps de smartphone. La valeur principale, ça doit être que l'enfant socialise, qu'il ait des notes à peu près satisfaisantes à l'école, qu'il ait des activités de création, qu'il soit à peu près équilibré. Donc il y a des enfants qui sont beaucoup sur leur smartphone et qui sont dans cette situation-là. Et il y en a d'autres qui sont pas beaucoup sur leur smartphone, mais qui vont très mal. Donc si vous voulez, il faut vraiment définir des valeurs et ce dont les enfants ont besoin, même si les ados nous snobent en tant que parents, il faut pas oublier que ils ont énormément besoin de l'attention qu'on leur porte, de la curiosité qu'on porte à ce qu'ils font. Et c'est ça qui va leur permettre d'éviter de chercher des valorisations de soi illusoires sur les réseaux sociaux, c'est de se sentir accepté, reconnu pour ce qu'ils sont, même s'ils correspondent pas exactement à ce que veulent les parents. Vous savez, les parents veulent toujours des enfants différents de ce que sont leurs enfants. Ben non, il faut accepter les enfants tels qu'ils sont.
Comment désamorcer les disputes, les colères inhérentes à ces conflits autour du portable à la maison? Qu'est-ce que vous conseillez? Quel est le conseil fondamental pour vous pour éviter de désamorcer ces disputes?
Alors, des disputes à l'adolescence, on en aura toujours. L'adolescence n'a pas changé fondamentalement.
Hein,
donc, le monde contemporain n'a pas changé ce passage d'existence. Donc, vous aurez des conflits avec vos ados, et c'est normal, ça fait partie de la séparation, de l'autonomisation de l'adolescence. Maintenant, c'est de toujours réamener un espace de discussion.
Dialogue.
Le dialogue, c'est fondamental, mais ça sera fondamental dans le couple par ailleurs. C'est ce qui fonde la relation à autrui, c'est ce qui vous fonde en tant qu'être humain, dans l'être ensemble dans la société. Donc c'est toujours le modèle qu'on apporte, que qu'on soit tout petit enfant et parents, enfant de primaire ou adolescent, on remet du dialogue, même s'il y a eu une grosse dispute.
Merci beaucoup Laura de nous avoir appelé. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la place des écrans dans le lit conjugal. Ce sera juste après avoir écouté Yaya Bey qui interprète Chasing the Bus.
Always on our way out. I love you, baby, but it seems we've been stuck in a drought. The storm is coming, but you still somewhere having your doubts. Guess you've been waiting all the time, but you can't get your time back. You are the remembered thing, for you live to regret that. How you gon' front on me?
Interprété Chasing the Bus.
Oui, alors pour les plus jeunes, discuter.
Grand bien vous fasse.
Comment dire, c'est un peu comme chatter, tu vois.
Ali Rebéi,
mais en vrai. Du coup, on peut se faire les smileys nous-mêmes.
Sur France Inter.
Couple, famille, comment les écrans nous perturbent, c'est notre thème ce matin. Cécilia Comeau, je rappelle que vous êtes psychanalyste, sexologue et thérapeute. Les écrans impactent également nos vies de couple. Est-ce que dans votre cabinet, vous voyez se multiplier des conflits autour des écrans dans le lit conjugal et dans la vie des couples tout court?
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup surprise. Pour le livre, en 2018-2019, j'avais fait passer un questionnaire à peu près 100 couples. Donc ça fait quand même 200 personnes. Et ce qui était fascinant, c'est que mon questionnaire, qui comportait plus d'une dizaine de questions, portait pas sur le sujet des portables. Je m'intéressais à autre chose. Mais dans les questions, il y avait était posé, est-ce que vous trouvez la présence de téléphone, écran, smartphone, tablette, satisfaisante jusqu'à très insatisfaisante? Et alors, ce qui était surprenant, parce qu'ils ne venaient pas pour ça et on n'en parlait pas, mais je regardais leurs réponses au questionnaire et la moitié, 50% de ces 200 personnes étaient très insatisfaites de la place des écrans dans leur couple. Sujet qui n'était pas abordé. Et donc, je me suis dit, ce qui est le plus terrible, c'est qu'il y a un énorme fatalisme sur la place du portable. C'est omniprésent, c'est pénible, c'est insatisfaisant, mais c'est comme ça. Et c'est moi qui revenais en disant, tiens, c'est étrange dans votre... Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Donc ça, c'est ce que je trouve le plus ennuyeux, c'est que les gens subissent l'insatisfaction des écrans.
Est-ce que l'usage excessif d'écran au sein du couple, c'est aussi un écran à la relation? Est-ce que l'usage du smartphone, de la tablette, c'est un moyen d'éviter le dialogue et les relations sexuelles?
Ah ben, dans le lit, oui, c'est vous prenez une tablette. Alors souvent, les gens me disent, je sais qu'il va pas se passer grand chose, donc je peux pas m'endormir là. Je vais regarder un truc, je vais me détendre. Ce qui est assez fascinant, ça aussi, c'est nouveau. On parlait de la télé. Là, il y a de moins en moins de télé dans les chambres. Hein. Et ce que je trouve très drôle, c'est que les gens me disent, non, pas la télé. Sous-entendu, c'est un tue le désir. Mais par contre, ils ont tous les deux une tablette. Et me disent, on regarde pas les mêmes séries parce qu'on n'aime pas les mêmes choses, et chacun regarde sa série. Et ça, je trouve ça absolument dingue, parce que finalement, on se retrouve dans le même lit, à deux endroits différents, avec un plaisir personnel. Il y a un mur, en fait, entre deux personnes qui ont une tablette. Et alors, il y en a, c'est moi, j'écoute des podcasts, lui, il regarde quelque chose. Moi, je trouve que, honnêtement, pour au moins la moitié des couples, c'est un fléau.
Quelle est pour vous la bonne pratique? Comment intégrer le smartphone dans le couple? Quel est votre conseil principal?
Je pense que ça doit être un outil, pas un mur, pas un refuge, parce qu'effectivement, c'est compliqué la communication dans les couples. Dans les chambres, j'ai souvent dit aux gens, achetez un réveil. Parce que si vous avez un réveil, vous n'êtes pas obligé de mettre votre téléphone dans la chambre. On a notre téléphone parce qu'il est tout notre téléphone. Et qu'entre autres, il est le réveil. Acheter un réveil le soir, je leur dis souvent, parce qu'évidemment, les gens me disent, il a le regard ou elle a le regard. Alors, c'est les femmes, un tout petit peu plus, qui se plaignent quand même. Toujours le regard qui traîne pour voir... Enlevez les notifications de votre téléphone, parce que quand c'est posé sur une table basse, il est 21h, vous êtes en train soit de regarder un film, soit de manger, puis ça s'éclaire sans cesse, et décidez...
De mettre sur mode avion
pendant
2-3 heures.
Mais c'est ça, on a l'impression que la Terre va s'arrêter de tourner.
Et puis il est essentiel de comprendre, Cécilia Comeau, les raisons de l'usage excessif des écrans au sein du couple. À quoi l'écran fait-il écran? Ça, c'est important.
L'écran, c'est un autre monde. Donc, il faut s'interroger sur le monde dans lequel je vis. Est-il à ce point inconfortable qu'il faille sans arrêt que j'aille en visiter un autre?
Laurence de Villers.
Je pense que paradoxalement, ça prouve que nous ne pouvons pas vivre sans monde. C'est un mot qui disparaît un peu. On parle de planète, de vivant, mais c'est le monde. C'est le fait que ma liberté, elle est ancrée dans tout un système de relations, de liens, de curiosités, d'objets, de désirs. Et ça, on a besoin d'un monde. Mais ce que dit Cécilia Comeau, c'est que en fait, mon monde n'est pas le tien, n'est pas le vôtre, n'est même pas celui qui est dans mon lit. Donc en fait, c'est le monde commun qui disparaît. Mais notre besoin de monde, non.
Angélique Gozlan, Serge Tisseron, en un mot, la règle de base pour préserver de bonnes relations en famille autour du portable, Serge Tisseron.
Fixer des règles familiales, je vous ai dit, aucun écran pendant les repas partagés, et c'est valable aussi pour les copains au boulot, et puis s'acheter un réveil, ça je suis 100% d'accord, et tous les téléphones le soir sur un rack.
Angélique Gozlon.
Pour les parents, questionner sa propre pratique du numérique et regarder ensuite ce qu'on propose à ses enfants en fonction du modèle qu'on propose.
Merci beaucoup Angélique Gozlan. Je recommande Petit guide décomplexant pour parents d'ados à l'ère du numérique. Merci Serge Tisseron. Votre livre c'est 3, 6, 9, 12 plus, apprivoiser les écrans et grandir, c'est chez RS. Merci Cécilia Como. Votre livre c'est Le couple parfait. N'existe pas. Voilà. Et Laurence de Villers, on vous retrouve au théâtre pour une impro philo le 25 avril prochain au théâtre de la Contrescarpe.
La philosophie parfaite n'existe pas.
Voilà. Vous improvisez, on vous donne des thèmes et vous improvisez, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est le 25 avril à 21h au théâtre de la Contrescarpe. Demain, à l'occasion du festival Quai du Polar, la semaine prochaine, quelques polars qui font du bien.